les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Bonjour tout le monde, nouvel épisode enregistré dans le cadre du Festival du Territoire Durable qui s'est déroulé en septembre dernier, qui était organisé par le collectif Passerelle Citoyenne. La thématique du jour, se nourrir localement. Et nous aurons autour de la table Laura Castillo qui est chargée de mission agriculture alimentation à Archaclos, Éric Bell du GAEC Champ de Main qui fait du maraîchage bio du côté de Bourg-les-Valences, Rémi Algis qui est paysagiste permaculteur et Yvan Colombet de la coopérative Ceinture Verte Drôme. Place aux intervenants.
Laura Castillo, je suis chargée de mission agriculture alimentation pour Archaclos. On s'est fait aider d'un bureau d'études qui nous a accompagnés depuis le printemps. On a souhaité faire un complément de diagnostic sur l'accessibilité alimentaire et la résilience alimentaire. Aujourd'hui, on en est à l'étape de co-construction du plan d'action. Donc sur la résilience, ce qu'on avait demandé au bureau d'études, c'était de pouvoir partir des calculatrices qui existent et qui sont en accès libre. Donc il y a l'outil Parcelle qui a été créé par Terre de Liens, qui est en open source. Vous rentrez soit votre commune ou à l'échelle de la France ou une communauté de communes. Et ça va vous sortir la répartition des surfaces agricoles. Et ça vous approche de manière théorique, parce que là, ça ne prend pas du tout en compte les flux alimentaires, mais juste vraiment ce qui est produit sur le territoire. Et en fait, on n'est pas si mal, parce que globalement, on peut nourrir à peu près 50% de la population sur le territoire. On est un territoire avec beaucoup de vignes, mais on ne l'inclut pas dans le total, parce qu'on considère que ce n'est pas un aliment qui est nécessaire à notre développement et à notre quotidien. Et puis on a une ligne sur la production individuelle et les jardins, donc là c'est des moyennes nationales par rapport au fait que tout le monde n'a pas forcément un jardin, donc ça permet d'approcher un petit peu l'autonomie alimentaire que les habitants peuvent avoir. Et ça permet en fait de poser cette base et de jouer un petit peu sur les surfaces en se disant que si on bouge telle ou telle surface, et ben, potentiellement on pourrait atteindre une autonomie alimentaire peut-être plus importante. Il y a des simulations qui sont possibles aussi sur le régime alimentaire. Ce qui est présenté là, c'est un régime alimentaire équivalent. Là, on peut aussi faire des simulations si on diminue notre consommation de viande de 25% ou de moitié. Et là, mécaniquement, en fait, on a cette autonomie alimentaire qui augmente. Et de mémoire de ce qu'on a présenté en atelier, si on diminue de moitié la consommation de viande, on passe à 60 ou 68% d'autonomie alimentaire. Le diagnostic a dégagé trois enjeux principaux qui ont été retenus par les élus. Un enjeu qui concerne l'accessibilité alimentaire. On souhaite que ce soit possible pour tous, quel que soit notre lieu de résidence, qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, quel que soit notre porte-monnaie, et puis quel que soit notre niveau d'information. Ce qui est ressorti aussi de manière importante, c'est qu'on a certes des aides à l'installation agricole pour le volet production, mais on a aussi un manque sur la transformation. Les petites unités de transformation collective sont assez manquantes sur le territoire. Donc on voulait explorer ce volet d'aller jusqu'à la filière agroalimentaire locale. Et puis évidemment, le contexte nous amène à nous questionner vis-à-vis du changement climatique et l'adaptation des pratiques agricoles pour limiter les risques économiques et environnementaux. Et voilà, donc ça c'était les trois thèmes des ateliers. Donc je vais détailler ces enjeux. On va démarrer par l'accessibilité alimentaire. On a trois catégories d'analyse en fait. Donc l'accès physique, le diagnostic a montré que sur Archaclos et Rhône-Crussol, il y a 8% de la population qui vit dans ce qu'ils ont appelé un désert alimentaire. Ça signifie que sur certaines communes, il n'y a aucun commerce alimentaire ou une boulangerie ou une boucherie, mais un commerce qui ne permet pas de faire ses courses, enfin l'intégralité des courses qu'on aurait besoin de faire, plus un réseau de transport en commun qui est soit inexistant, soit qui est non satisfaisant pour la population. C'est-à-dire que les habitants de ces communes-là, ils sont dépendants de leur voiture pour aller faire leurs courses. Et dans un contexte où déjà financièrement, le prix du carburant augmente, et puis à plus long terme, on va avoir une raréfaction des ressources, des énergies fossiles, voilà, ça nous questionne sur l'accessibilité physique à une alimentation pour ces personnes-là. Donc sur l'aspect économique, on a un taux de pauvreté de 11% sur Archaglo. Et on a une évolution du budget alimentaire par rapport au budget global qui a baissé. Dans les années 60, on consacrait 35% de notre budget pour l'alimentation. Et maintenant, on est à 20%. On a un chiffre très important en 2020. Le nombre de bénéficiaires a augmenté en Drôme et en Ardèche, et c'est 15 000 foyers qui ont fait appel à la banque alimentaire. Il y a aussi un accès cognitif. Il est nécessaire d'avoir connaissance en fait, de l'offre alimentaire pour avoir le choix et faire son choix en conscience et connaître les différentes nuances entre les marques, les labels et être en mesure de choisir l'alimentation que l'on souhaite. Donc le deuxième enjeu, qui était de faciliter l'installation des porteurs de projets, à la fois sur la production et sur la transformation, distribution et les circuits courts. Sur le territoire, on fait, alors c'est vrai aussi en France de manière globale, et le recensement agricole l'a mis en lumière. Donc, on a un déclin de la population agricole et énormément de départs en retraite qui vont arriver. Et également une perte de foncier avec une artificialisation des terres. On a aussi peu d'outils de transformation intermédiaires. On a une industrie agroalimentaire, des filières longues qui sont très présentes sur le territoire, des ateliers de transformation mais plutôt individuels. Donc l'idée, c'est de faire levier sur ce point-là, et donc déjà de mettre en lumière l'existant. Sur le troisième enjeu qui est l'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique, on est sur un secteur où on a des zones qui sont vulnérables aux nitrates, dues à la fertilisation, et donc une agriculture qui a un impact sur l'environnement. On a quand même une dynamique positive en termes de conversion à l'agriculture biologique, qui est en forte augmentation, et la Drôme est le premier département de la région en nombre d'industries agroalimentaires de transformation bio. Donc, c'est-à-dire que sur le territoire, mais aussi sur les territoires alentours, on a la ressource pour la ressource de matières premières pour transformer les produits.
Moi, je m'appelle Éric Bell, je suis maraîcher en bio depuis un peu plus de 20 ans, en gros, mais je suis fils et petit-fils de paysans dans la plaine de Valence, à Bourg-les-Valence. À 16 ans, j'étais sur la ferme familiale. Au début, on était en conventionnel. Hein. On avait suivi la trajectoire un peu du grand-père, hein, qui était passé en culture classique, polyculture, donc plutôt des animaux, quelques animaux, des terres, du fruit, ce qui faisait que c'était une petite ferme difficile à vivre, quand même, malgré tout. Et après, il y a eu cette spécialisation par mon père de fruitier au départ. Il a planté beaucoup d'arbres. Il a amené tout en coopérative et il s'est aperçu que, vu la dimension de notre exploitation agricole, vendre tout à la coopérative, les bénéfices qu'il en restait, c'était pas suffisant. Il est sorti de la coopérative, donc pour, comme je disais, pour vivre. Et donc, moi, j'ai vraiment commencé en faisant de la vente directe dans le métier-là, en allant sur le marché de Valence, en produisant mes produits en conventionnel, parce que je connaissais que ça. Les études agricoles que j'avais fait, donc j'avais fait juste un BEP agricole à l'époque, SBEP agricole, je me souviens, on avait un cours de protection des végétaux et on apprenait uniquement à faire des mélanges de produits chimiques. Dans ma classe, il y avait un Pascal Alboussière, il était le fils de René Alboussière qui faisait de la bio depuis 1964. Donc ça faisait longtemps qu'il faisait de l'agriculture biologique. Et ce prof disait l'agriculture biologique, c'est que de la fumisterie. Ça ne peut pas exister, ça ne marche pas, c'est que de la tricherie, etc., etc. Donc c'est un prof qui nous enseignait au lycée agricole. Les choses ont bien évolué, heureusement. Donc moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec mon père. Et puis, il y a un moment, j'ai quitté l'exploitation, la ferme familiale, pour tenter d'aller dans de nouveaux horizons, et en particulier vers l'agriculture biologique. Parce que mon père, Il était d'une ancienne génération où aller en bio, c'était trop compliqué pour lui, comme beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, hein, de passer, quand traditionnellement on est dans l'agriculture, passer dans l'agriculture biologique, c'est parfois très difficile, c'est changer tous ses repères, changer beaucoup de choses sur le plan social, sur le plan pratique, prendre des risques. On ne connaît pas, c'est l'inconnu, et donc ça reste très compliqué pour certains. Donc je suis parti, j'ai fait une formation en agriculture biologique et j'ai fait 10 ans de jardin de cocagne. En 2012, je suis parti pour recréer ma ferme, moi, en agriculture biologique. Et tout ça, c'est toujours dans la lignée de la vente directe, parce qu'il y a une dimension, c'est mon travail que j'arrive directement à communiquer aux personnes qui achètent et qui consomment. Donc le plaisir d'avoir du bon légume, du beau légume, frais, et de sentir les gens contents d'acheter les produits. Ça, c'est, je crois que ça fait partie dans mon métier d'une base essentielle, c'est vraiment de sentir le contact et le lien qu'il peut y avoir entre ma production et le consommateur qui va le cuisiner, qui va se régaler. Ou qui va... Et ça, c'est important. S'il n'y avait pas ce contact-là, je crois que je ne ferais pas ce métier-là, je le dis franchement. Et en fait, c'est tous les consommateurs aujourd'hui qui m'ont permis, en tous les cas, de passer du conventionnel au bio. Vous voyez bien que chaque personne s'interrogeait de savoir comment, qu'est-ce qu'il consommait. Donc souvent, j'avais des questions, mais c'était même plus que souvent, c'était récurrent. Est-ce que vous traitez ? Voilà, moi, je traitais, et j'étais bien embêté pour répondre. Et un jour, j'ai décidé que j'aurais une réponse claire. Et j'ai dit, ben, moi, je ne traiterai pas, et je ferai de la culture biologique. Et donc, c'est ce qui s'est passé, mais il m'a fallu quand même 20 ans de trajet, de bousculade intérieure pour arriver à dire stop, je passe à autre chose que la culture conventionnelle que je connaissais. Je veux dire que ça a été pas simple, parce que je venais vraiment d'une tradition agricole et qu'on ne change pas les choses comme ça. Et donc depuis, je suis en agriculture biologique avec Émile et on adhère à un réseau de fermes qui s'appelle les fermes paysannes et sauvages. Donc on va au-delà de l'agriculture biologique dans l'idée d'intégrer dans nos fermes des surfaces, des espaces qu'on destine à la nature. Donc on réintroduit des mares, des haies, des espaces non cultivés. Ça nous paraît en tous les cas important sur le plan environnemental, ça nous paraît important sur le plan de biodiversité et ça nous paraît très important sur l'avenir un peu de nos métiers. Nous on le fait très facilement, ça ne nous empêche pas de vivre et au contraire. En tous les cas, depuis 20 ans que je fais de l'agriculture biologique, je me suis très vite aperçu que le lien à la nature et la biodiversité, c'était notre principal outil. En gros, la relation qu'on peut avoir, c'est très important pour la réussite de nos projets. C'est une étape qui est importante de passer du conventionnel au bio, mais on peut aller au-delà. Voilà, donc il y a différentes étapes. Aujourd'hui, on peut faire évoluer. En toute franchise, le passage du conventionnel au bio, ça s'est fait, mais alors... très facilement, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils avec l'agriculture biologique qui nous permettent d'avoir des réponses à tous nos questionnements en tant qu'agriculteurs. La seule chose, c'est vraiment le passage à cette étape entre le conventionnel. Mais techniquement, aujourd'hui, on est capable de le faire et on peut nourrir tout le monde à l'agriculture biologique.
Moi, je suis paysagiste, concepteur. Et en fait, paysagiste, concepteur, ça réside à aménager le territoire. C'est-à-dire avoir une vision assez transversale du territoire, et ce qui veut dire avoir des connaissances sur le sol, le végétal, la mobilité, l'éclairage, les réseaux, le vivant. Donc j'ai un peu des connaissances dans tout, mais je suis spécialiste en rien. C'est un peu le problème, je l'ai accepté. Et ce qui m'a amené à l'agriculture, c'est que j'ai travaillé en agence quand j'ai démarré à Paris, et j'ai travaillé sur une zone logistique, en Mayenne, 200 hectares, et je ne savais pas ce que c'était qu'une zone logistique. Donc au début, quand on travaille sur 200 hectares, on a l'impression d'être un peu dieu. Et après, quand je me suis rendu compte que ça représentait dans le territoire une quinzaine d'emplois, faible revenu et 200 hectares arasés dans un paysage de bocage, je me suis rendu compte que j'étais juste un con d'humain. Donc j'ai démissionné. Et puis j'ai rencontré sur ma route un couple de néo-paysans qui s'était installé en Normandie, qui s'appelle Charles et Perrine Régruyer, vous connaissez peut-être, et en fait qui s'est installé là-bas pour exercer leur métier de naturopathe, qui ont fait leur potager, qui est devenu un grand potager, un petit maraîchage, une grande ferme. Donc j'ai visité leur ferme et je me suis rendu compte avec émerveillement qu'en fait on pouvait produire des aliments et régénérer des territoires. Donc leur ferme, ça ressemble à un grand jardin, il y a des mares, il y a des arbres, ils produisent, c'est viable économiquement, ils arrivent à en tirer des revenus, ils vivent au-dessus de la moyenne des maraîchers du coin. Et du coup, aujourd'hui, j'ai cette double casquette qui est de paysagiste permaculteur. Et est-ce que la permaculture, ça vous parle ? La permaculture, c'est pas un type de production. Bah déjà, c'est une éthique. C'est que quand vous vous inscrivez dans une démarche permacole, l'éthique, c'est prendre soin. C'est prendre soin des humains et de l'ensemble du vivant. Donc, comment ça se traduit quand vous êtes paysagiste ? Bah, ça se traduit par ne pas faire de zone logistique. Donc, plutôt accompagner ceux qui travaillent le vivant, améliorer le vivant. Et après, la deuxième chose, c'est une méthode qu'on appelle le design. C'est un anglicisme parce que c'est la permaculture est née en Australie. Et le design, c'est une espèce de démarche qui pourrait se rapprocher d'une démarche d'un paysagiste, d'un architecte ou d'un ingénieur qui va permettre aux concepteurs, paysans ou autres, de concevoir ou de transformer un aménagement, un jardin, une ferme, en un agro-écosystème. C'est-à-dire un écosystème conçu par l'homme qui s'inspire de la nature, donc qui fonctionne en boucle, qui échange de l'information, de l'énergie.
Je pensais à
l'agroforesterie. Ben en fait, l'agroforesterie, c'est toute une déclinaison de techniques qui permettent d'associer des arbres avec des strates inférieures, arbustes et herbacées, et qui peut être employée dans un projet agricole, permacole. Donc la permaculture, c'est vraiment une démarche qui va consister à créer un écosystème, et donc qui va consister à créer des relations entre les différents éléments d'un écosystème. Et je voulais vous montrer un projet. Donc en fait, ça, c'est un projet de ferme que j'ai fait à Versailles. Alors c'est une micro-ferme, ça va vous faire rigoler, hein, parce que ça fait 3000 m². Donc c'est pas une dimension de ferme. La première chose quand vous faites un design en permaculture, c'est d'observer votre site. Donc là, bon, le site il est assez vierge, donc on a observé le sol. Il y avait une couche d'argile, parce que c'est un bassin. On a observé les murs, on a observé le climat, les microclimats, le vent. Et après, on a commencé à réfléchir aux besoins et aux productions que voulait installer le maraîcher Gilles. Donc il voulait produire des légumes, des fruits, il voulait avoir des poules, il voulait accueillir des gens, il voulait faire des visites, il voulait faire de la formation, il voulait avoir une mare pour se baigner, mais pas que. Et donc on a commencé à mettre un peu tous les éléments qu'il voulait installer dans la ferme, et après on a vu quels étaient les besoins qui était nécessaire pour répondre à pour faire vivre ces éléments et comment on pouvait les assembler pour créer un écosystème. Donc ça, c'est le plan de la ferme qu'on a fait ensemble. En fait, on a installé tous les éléments qui étaient vitaux au fonctionnement de la ferme, qui étaient un abri pour accueillir les visiteurs et vendre les légumes, une serre, un potager, donc un mini-maraîchage et un système agroforestier qui permet de produire les petits fruits rouges, les fruits et les aromatiques. Et on a organisé ces éléments dans cette parcelle de manière à maximiser les énergies. Donc les énergies, si elle est solaire et elle est humaine, c'est que tout est manuel. C'est-à-dire que la serre bioclimatique est adossée au mur qui est plein sud, qui est un mur qui fait 1 mètre d'épaisseur, qui va restituer la chaleur accumulée la journée, la nuit, pour chauffer la serre. Le potager est extrêmement compact avec des planches permanentes qui font 80 cm de large de manière à permettre de jardiner ce potager avec des outils manuels, donc sans pétrole, et de manière à pouvoir apporter beaucoup plus de fonds en plantation. Sur une planche permanente de 80 cm, vous pourrez par exemple planter 16 ans de carottes avec un semoir manuel, ce que vous ne pouvez pas faire avec un semoir mécanique sur un tracteur. Ton rang dans les interrangs correspond à, je sais pas, 15-30 cm peut-être. Donc en fait, en travaillant manuellement et en concevant des écosystèmes, des agroécosystèmes qui interagissent, vous allez apporter une multitude de fonctions dans la ferme qui sont la collecte des eaux de pluie, l'accueil de biodiversité, des zones de nidification pour les insectes, un maraîchage, et vous allez constituer une espèce d'ensemble d'agro-écosystèmes qui vont soutenir et supporter la production. Voilà. Donc là, sur ces 3000 m², il fait 30 paniers. Donc c'est ridicule. C'est ridicule en termes de production. Par contre, si vous multipliez les petites fermes de Gilles de 3000 m² à 1 hectare, vous pouvez les massifier, là, vous pouvez obtenir un réseau de fermes qui vont régénérer et restaurer des écosystèmes qui sont détériorés, enfin qui sont même plus des écosystèmes, des espèce de désert agricole, et vous avez créé de l'emploi, et vous avez créé de la connaissance et du partage.
Donc moi, c'est Yvan Colbert, je m'occupe d'un réseau de coopératives d'accompagnement de porteurs de projets en maraîchage biodiversifié. Et avant de vous raconter ce qu'on fait, je trouve que c'était assez intéressant dans les chiffres que nous présentait Laura sur la situation dans l'interco. C'est assez rare, même s'il y a beaucoup aujourd'hui de territoires qui se lancent dans des exercices de mesure de leur autonomie alimentaire. Quand on regarde un territoire plutôt rural, et notamment plutôt des petits territoires, on peut arriver à des chiffres comme on a là, avec le taux de couverture que tu citais tout à l'heure. Pour les fruits, c'est 2000%. Donc bon, voilà, on exporte des fruits, évidemment. Pour les légumes, on est à 90%. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on peut raisonner soit vraiment au niveau local, l'interco est-elle capable de se nourrir en légumes? Mais si on prend un petit peu de recul, parce qu'à côté des territoires plutôt ruraux, il y a des zones urbaines où vivent en réalité la majorité de la population. Et donc si on regarde, on avait fait l'exercice avant de monter la coopérative Ceinture Verte dans la Drôme. Si on regarde au niveau du département de la Drôme, qui est pourtant un territoire, enfin une filière où il y a historiquement des filières végétales. On n'est pas sur un territoire où il y a une très grande dominante élevage. Donc on a produit historiquement des légumes sur ce territoire depuis longtemps. On est à, je crois, autour de 15% d'autonomie sur les légumes. En gros, ici, il y a de quoi nourrir la population en légumes. Si on regarde à Valence, pas du tout. Et les ordres de grandeur sont intéressants parce que derrière ces chiffres, on voit aussi les efforts qu'il va falloir faire pour affronter, d'une part, la volonté de la population de manger plus local et d'affronter le défi du renouvellement des générations agricoles avec un agriculteur sur deux, là pour le coup ici, comme sur quasiment tous les territoires en France, qui va partir à la retraite dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Et c'est vrai que nous, on a vraiment été animés par ce constat-là au démarrage, qui est qu'il y a un besoin social, hein, d'avoir une alimentation plus locale, plus saine, plus bio, etc. Et il y a un défi de grande ampleur qui se résoudra certainement ni avec un coup de baguette magique ou par une simple bonne volonté de la part des citoyens et des élus, et qui se résoudra aussi certainement pas avec une seule solution, mais avec une myriade de solutions qui vont permettre de régler les problèmes que rencontrent tel type de porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des très petites surfaces, comme ce que décrivait Rémi, donc avec des petites fermes, des micro-fermes. Et les problématiques auxquelles sont confrontés les enfants d'agriculteurs, comme Eric qui a repris la ferme familiale, qui ne sont pas les mêmes que les personnes en reconversion professionnelle. Parce que je trouvais ça intéressant, tu disais tout à l'heure, Eric, c'est beaucoup plus simple pour des gens en reconversion de passer au bio que quand ça fait 20 ans que tu fais du conventionnel. Ça, c'est vrai. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué de s'installer quand on perd, n'est pas maraîcher. Quand on regarde les statistiques des gens qui font des formations, y en a moins d'un sur deux qui réussit à concrétiser son projet d'installation, et notamment à cause des problèmes de foncier. Donc ça, c'est quand même un obstacle, c'est un obstacle majeur qu'il faut résoudre. Bon, et puis après, quand on rentre dans la mécanique, des terres à vendre, il y en a. Le problème, c'est de réussir à les acheter, quoi. Ça a été un des éléments, nous, de notre réflexion au démarrage, où on s'est dit, comment on peut réussir à monter un truc où on organise une gouvernance locale qui permette de mettre plus de chances du côté des porteurs de projets pour leur trouver du foncier. Et cette gouvernance locale-là, bon, nous, on l'a fait sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, parce que c'est une forme qui convient bien au reste de nos activités. Deuxième problème majeur quand même en matière d'installation agricole, c'est que dans ceux qui réussissent à trouver du foncier, on sait qu'on en a plus d'un sur deux qui s'arrête dans les 5 premières années qui suivent son installation. Qu'il y ait certaines personnes qui arrêtent parce que ça leur convient pas, c'est normal, mais le chiffre qu'on a, et puis les résultats économiques aussi des producteurs, alors je parle que du maraîchage, donc des gens qui s'installent sur des petites surfaces, en moyenne leur rémunération est inférieure au SMIC. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrêtent, parce que les résultats économiques sont pas au rendez-vous. Et il y a, je pense, depuis, on observe nous depuis une dizaine d'années, un vrai intérêt qui motive aussi les reconversions, hein, pour la permaculture, pour la réduction du travail du sol, le maraîchage sur sol vivant. La quasi-totalité des porteurs de projets veulent s'installer en bio. Et par contre, s'installer, c'est aussi, comme paysan, c'est aussi créer une entreprise agricole. Et il faut en vivre. Et il y a un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver entre la volonté d'exemplarité environnementale dans les pratiques, les intrants, etc., et la rentabilité économique. Les coopératives achètent du foncier. Ensuite, elles aménagent les exploitations, c'est-à-dire elles montent des tunnels de culture, elles mettent en place un système d'irrigation. Elles font en quelque sorte du BTP. Hein. Et ensuite, elles mettent à disposition les sites aménagés de porteurs de projets qu'elles accompagnent par ailleurs sur des aspects techniques, mais aussi plus généralement sur la question de la gestion de l'entreprise agricole. Parce que quand on est sur un schéma, comme décrivait Eric, où on fait de la vente directe sur une petite ferme, faut produire, faut faire la compta, faut commercialiser, faut gérer la main-d'œuvre. Donc c'est une activité de chef d'entreprise polyvalent où il faut faire plein de trucs, et plein de trucs que ne savent pas forcément tout de suite très bien faire tous les producteurs qui s'installent.
C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.